Ok, on y va. Bien, Shavua Tov. On va parler ce soir des Avot. La Gemara dans Brachot, elle dit En Korin Avot Ela Lishlosha. Il n'y a que trois personnes qui sont appelés Avot. Rashi explique que on veut ici exclure les Shvatim, on veut exclure les tribus, on veut exclure ceux qui sont donc les fils de Yaakov, qui en réalité sont donc des pères de tribus. Mais il n'y a de Avot que si on est père du clan Israël dans sa totalité. Il n'y a pas de Avot à l'échelle des tribus. Bon, de façon générale, on considère que avec les Avot, c'est un nouveau commencement. Et on va jusqu'à dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov réparent les fautes de Adam. Ces textes-là disent que Adam a, en vérité, il a transgressé les trois fautes majeures, et que pour pouvoir recommencer, d'une certaine manière, il fallait réparer ces fautes-là. C'est ce que font les Avot. Les Chachamim ont mis en rapport des très grands événements vécus par leurs enfants, leurs descendants, avec des détails, des toutes petites choses vécues par les parents. C'est-à-dire, les parents, les Avot, ont vécu des choses et il y a une analyse fine de tout ce qu'ils ont fait. Et les Chachamim ont mis en rapport ces gestes-là, des Avot, avec ensuite des événements très importants dans la suite des générations. Ils nous ont en quelque sorte dévoilé un secret, cette grandeur des pères. Nous dire que d'une certaine manière, les Avot sont une forme particulière, spécifique d'une tranche supérieure de l'humanité ou quelque chose comme ça. Bien sûr, avant les Avot, dans la Torah, on voit bien qu'il y a des géants. Il y a Adam Harishon, il y a Noach, Shem. Ces gens-là se sont approchés du Créateur, surtout par le côté chesed, le côté générosité, dans la mesure où cette générosité est à l'image de la générosité du Créateur. En cela, ils se sont donc approchés, mais ce n'est pas suffisant. Il leur a manqué une dimension. Dans Pirkei Avot, Chazal disent « Chavivim Israël », les Bnei Israël sont chers parce qu'ils sont appelés Banim Lachem Elokeim. Ils sont appelés Banim. C'est marqué, c'est un pasouk dans Dvarim, Sefer Dvarim, qui dit Banim Atem Lachem Elokeim. Vous êtes des enfants d'Hachem. Donc cette dimension d'Hachem comme père, c'est une Gemara très connue que dans une situation très difficile, tous les Chachamim ont prié. Chacun est allé à la place de l'officiant, celui qui dirige, et rien n'y a fait jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva et qui a inventé, si on peut parler comme ça. Lui, il a dit Avinu Malkeinu. Avinu d'abord. Si vous voulez, c'est pas du tout évident qu'Hachem soit roi, une distance suffisante, mais que on puisse s'adresser à lui comme à un père, c'est loin d'être évident. Mais c'est ce que Rabbi Akiva a compris, et c'est ce qu'ont essayé de faire les avot. Alors bien sûr, on a un problème, parce que, ok, Abraham, c'est un av, il a commencé. Mais après, Yitzhak, c'est son fils. En quoi est-ce que ce fils peut devenir un av? Et en quoi est-ce que ce petit-fils, Yaakov, va devenir lui aussi un av? Ils sont des fils, finalement. Toujours dans Pirkei Avot, dans le sixième chapitre, Chazal disent que Akadosh Baruch Hu a dans le monde cinq kinyanim. Il a acquis quelque chose. Hachem, on dit qu'il les connaît à col, mais on a mis l'accent sur cinq choses. Et l'une de ces choses-là, c'est Abraham. Et comme c'est marqué dans le Passouk, c'est Shem qui parle à ce moment-là, qui dit Uvaruch Avraham lequel Elion connaît Shamaim Vaaretz. Qu'Avraham soit béni par lequel Elion, c'est un nom divin, connaît Shamaim Vaaretz, qui acquiert qui est le maître, donc qui a acquis ciel et terre. Et c'est ce kinyan-là qui fait que les actions des avot ont un tel impact sur nous. Alors pour essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est qu'un av, on va faire un peu une liste. Et la première chose que je voudrais dire, me semble, c'est que un av, Abraham est un peu au-delà. D'abord, on verra que Abraham va rompre complètement avec son père. Et là, on comprend assez bien, c'est un commencement. Mais ensuite, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu, ce qui fait d'eux des avot, c'est la capacité qu'ils ont d'aller contre leur mida inné. Yitzhak, c'est la mida tadin, la gvura, et Yaakov, c'est le emet. Mais ça, c'est présenté quasiment comme une mida, comme une mesure d'eux-mêmes, donc une caractéristique d'eux-mêmes, innée, quelque chose qu'ils ont depuis le départ. Et leur travail, ce qui va permettre d'être av, c'est d'être capable de prendre cette mida-là et la transformer en une mida acquise. On passe de l'inné à l'acquis. On va voir comment est-ce que ça peut se faire. Si on prend Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le chesed. Générosité. Et il va devoir renvoyer Agar et Ishmaël, son fils. Il le fait parce que Sarah le lui a demandé, mais Sarah, elle savait, par Ruach HaKodesh, par inspiration, par prophétie, qu'Ishmaël, qui aujourd'hui est tout à fait cachère. Qu'est-ce qu'il est maintenant, comme dit Hachem, qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est cachère. Il est même, c'est un sadique maintenant. Mais elle, elle sait que finalement, il va en arriver à faire les pires choses. Je dis tout de suite ce que vous savez probablement, c'est qu'effectivement, il va faire les pires choses, mais ensuite, il va faire tchouva. Donc, Ishmaël va faire tchouva. On sait que au moment de l'enterrement d'Abraham, il va laisser la première place à Yitzhak. Il va reconnaître que Yitzhak est véritablement l'héritier, et cette reconnaissance, en fait, il n'a pu la faire qu'à partir du moment où il a fait complètement tchouva sur ce qu'il avait fait jusqu'alors. Donc, Abraham, lui, ne sait pas ce que Sarah sait. Il ne sait pas. Pour lui, Ishmaël est un tzaddik. Il n'y a rien de mal à dire non plus sur Agar. Donc, il va devoir se faire violence pour renvoyer Agar et Ishmaël, alors que il ne sait pas la vérité sur Ishmaël. Tout ce qu'on sait d'Ishmaël, c'est que il jouait un petit peu à tirer des flèches autour du corps d'Yitzhak. Bon, alors c'est peut-être révélateur, ça relève peut-être de la psychanalyse, je ne sais pas. Mais bon, il n'y avait pas de quoi le chasser pour l'instant. Toute sa vie, Abraham Avinu a lutté contre les sacrifices humains. Et maintenant, qu'est-ce qu'Hachem lui demande de faire? Un sacrifice humain. Akedat Yitzhak. Donc ici, son chesed, qui était une mida innée, comment est-ce qu'il va pouvoir en faire une mida acquise? C'est en étant capable de faire le contraire de cette mida innée, c'est-à-dire de maîtriser la chose et de l'acquérir, d'en faire une mida construite, une mida qu'il aurait façonnée littéralement. Yitzhak Avinu, c'est la midat adin, la rigueur. Alors, il faut que j'explique quelque chose. Il y a une notion qui s'appelle siyata d'ishmaya, l'aide du ciel. C'est quelque chose qui est de l'ordre du rachamim, de la tzedaka, donc de la tendresse, de la générosité. C'est quelque chose qu'on demande à Hachem. Quand quelqu'un vit selon la midat adin, il n'y a pas de place pour la siyata d'ishmaya. Il n'y a pas de place parce que la midat adin, c'est quelque chose qui considère qu'un tzaddik Nimi, c'est-à-dire un tzaddik intérieur, pas quelqu'un qui manifeste à l'extérieur, mais quelqu'un qui est au fond de lui-même un tzaddik, celui-là, pour être Zoché Bedin, c'est-à-dire pour avoir réussi, il doit le faire par lui-même, sans aide extérieure, sans l'aide de cette siyata d'ishmaya, cette aide du ciel. Pour lui, ce serait ce qu'on appelle Naama de Kisufa, c'est le fameux pain de la honte, si on l'aide. Et pour quelqu'un, pour la Milat Adin, s'il faut en passer par le galout ou par des difficultés, alors, ok, on le fera. On verra que Yaakov Avinu, à un moment donné, il voudrait aussi, il aura voulu aussi vivre selon la Midat Adin. C'est marqué « Vehaya Hashem li l'Elokim ». Il a voulu que Hashem, pour lui, soit Elokim, c'est-à-dire la Midat Adin. Yitzhak Avinu, dit la Torah, il aime Esav. Esav, extérieurement, il se présente à son père comme un tzaddik. Par exemple, on sait, Chazal nous dit, que personne n'a jamais pratiqué la mitzvah de Kibud Av Va'em comme Esav. Esav, pour servir son père, il mettait des vêtements royaux. Et donc c'est un tzaddik, mais disons, chitsoni extérieur. Comme il est extérieur, alors on peut lui donner une bracha, de toute manière c'est à l'extérieur. Et donc Yitzhak veut lui donner la bracha, il ne sait pas, Yitzhak, que Esav va basculer du côté du mal jusqu'à tuer toute trace de bien en lui. Son, on va le savoir après, son tsar, son le prince, l'ange, qui le gouverne en fait. L'ange qui le gouverne, qui a pris le pouvoir en lui, celui qui correspond à son intériorité, c'est le Satan. Ce que Chazal vont nous dire quand Yaakov va lutter contre le tsar de Esav, c'est la lutte contre le Satan, contre les Yetzer Hara. L'épreuve d'Yitzhak Avinu, c'est d'être capable de passer par-dessus sa mida tadin, pour en faire une mida tadin acquise. Il va devoir faire quelque chose qui n'a pas de sens, si vous voulez, du point de vue de la mida tadin. Il va devoir bénir son fils Yaakov, qui est un tzaddik pnimi, un tzaddik de l'intérieur, il va devoir bénir l'akdoucha, amplifier l'akdoucha, contraire évidemment à sa mida. Et c'est pour ça que ça va se passer sans son date, sans qu'il le sache. Il ne sait pas. La bracha qu'il donne à Yaakov, quand il la lui donne, il ne sait pas qu'il la donne à Yaakov. Mais quand est-ce qu'on voit qu'il a effectivement transformé cette midat ha-din innée en acquise? C'est après qu'il ait compris, quand Esav est arrivé, il a compris que c'était Yaakov qui avait reçu les brachot. Alors il a dit « Gam Baruch Yé ». Il a été capable de dire « Ok, c'est pas ce que je voulais, mais bon, qu'il soit béni ». Or, bénir Yaakov, sachant qui est Yaakov, c'est contraire à sa mida, et c'est ce qui va lui permettre de passer d'une mida innée, à laquelle on ne peut pas se soustraire, si vous voulez, à une mida acquise. C'est acquis, donc on peut, ça se construit, il y a des exceptions, ça se construit justement par les exceptions. Avraham Avinu, lui aussi, il va devoir aller contre sa mida de chesed, mais là, c'est avec son dat, mais c'est bal kocho. C'est-à-dire, il le sait, mais c'est contraire à son désir. Il aurait voulu ne pas le faire, ne pas renvoyer Agar et Ishmael. Si vous voulez, c'est pas complètement sans son date, mais c'est pas un date complet puisque c'est pas ce qu'il aurait voulu faire. la caractéristique de ce point de vue-là, donc des Avot, c'est d'être Baruch. Baruch, ça veut dire amplifier. C'est-à-dire faire une Avodat Hashem, servir Hashem, à partir d'une notion de chidush, de renouveau. Amplifier, c'est-à-dire à faire autrement que ce que c'était auparavant. Et en ajouter, chidush et osafa. Chidush et ajout. Quand le fameux grand scandale qu'est le fait qu'Abraham va abandonner son vieux père, quand ce qui est écrit, qui n'est pas écrit directement dans la Torah, mais que Rashi vend la mèche, quand Rashi qui nous dit, fais le compte, tu verras qu'il l'a abandonné. Alors, donc le Lech Lecha, si vous voulez, il a eu lieu bien avant la mort de Terach, bien que dans le texte, ça figure après. Mais c'était juste qu'on n'a pas voulu le dire explicitement. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Parce que lui, il doit marquer une rupture radicale avec le monde de Terach. Donc cette rupture radicale, il ne peut rompre avec lui que de son vivant. Sinon, il n'est plus là, alors on fait autrement. Mais là, en l'occurrence, c'est une rupture radicale. Donc c'est possible, c'est essentiellement possible, s'il le fait de son vivant. Yaakov Avinu, sa mida, c'est le Emet. Il va commencer par devoir mentir à son père. Alors c'est sûr que, comme tout le monde sait, il ment à son père sur l'ordre de sa mère. Ça c'est le problème des mères. Que ce soit Sarah pour Yitzhak ou Rivka pour Yaakov. Elles jouent des rôles fondamentaux. Il faut dire, pour rassurer certains, que c'était les femmes qui avaient Ruach HaKodesh. Donc, ça ne concerne plus personne aujourd'hui, mais je vous rassure. Elles avaient effectivement des connaissances que leur mari n'avait pas. Sarah savait qui était Ishmael, et Rivka sait qui est Esav. On dit encore que les Avot, ils sont la Merkava, ils sont le chariot, le fameux chariot divin. Donc le support du divin dans le monde. Ça, nos maîtres expliquent que ça implique que l'homme s'écrase devant la volonté d'Hachem. Comme s'il n'était et n'avait rien. Il devient un clé, il devient un instrument pour le service d'Hachem, sans aucune restriction. À ce moment-là, il devient vraiment Merkava la Shrina, il devient vraiment le support de la présence divine dans le monde. Mais ça implique de sa part un bitoul, une annulation en fait. Évidemment, ça ne sera véritable que quand l'homme va faire concrètement la volonté d'Hachem. Chez Avraham Avinu, ça consistera à faire la Mila. chez Yaakov Avinu, qui doit dominer le Yetzer Hara, c'est au retour de chez Lavan, il devra vaincre Esav. Vaincre Esav, c'est pas un problème de guerre. Vaincre Esav, c'est arriver à être en paix avec lui, mais sans subir son influence. Donc mettre de la distance avec Esav. Mais une distance sans violence, sans paroles violentes. Au moment où Yaakov a quitté Lavan, et que Lavan l'a poursuivi, il l'a rattrapé, on voit que, curieusement, il y a un épisode sur lequel, c'est un sujet pour soi, mais il y a cette histoire des pierres. Yaakov dit à ses enfants de ramasser des pierres. Avec ces pierres, on va faire une table, à la limite. Une table sur laquelle on va manger avec Esav. Avec Lavan. On va manger avec Lavan. Il va manger avec Lavan. Lavan qui l'a poursuivi et qui va lui dire « Tout est à moi ». En fait, il va lui dire « Tu sais, quand j'ai regardé tout ce que j'ai touché, toutes tes affaires, etc. C'était pas du tout pour savoir si tu avais fauché une petite cuillère en argent ou pas. C'était ça, pas du tout ça mon problème. Tout est à moi. C'était pas ça. Je cherchais seulement les pénates que nous savons que Rachel avait prises. C'est ça que je cherchais. C'est tout. Mais pour le reste, tout est à moi. Comment tu veux que je fasse du mal à mes enfants, à mes petits-enfants? Et Yaakov enseigne à ce moment-là à ses enfants, à ses propres enfants, et pour que ce soit clair qu'il ne s'agit pas d'un ordre du père à ses enfants, ces enfants-là, il les appelle mes frères. Dans le texte, c'est marqué mes frères, et Rachid dit, ce sont ses fils. Pour bien qu'il soit clair que ce n'est pas le problème de c'est le dit du Père, la parole du Père à laquelle on doit obéir, etc. Mais c'est un enseignement. L'enseignement, c'est qu'il faut, à tout prix, semble-t-il, il faut rechercher la paix. Même avec une crapule comme Laban. Et il faut sceller cette paix avec un repas. C'est une leçon que Yaakov veut donner à ses enfants. Ce que je vous dis, c'est chercher à obtenir la paix. Là, en l'occurrence, ici, c'est un exemple avec Lavan, mais il va chercher la paix aussi avec Esav. Alors, cette distance qu'il a mise, c'est, comme vous savez, quand Esav lui a demandé, lui a dit, oh, bon, ils se sont embrassés, tout va très bien, etc. Alors, Esav lui dit, on va faire un bout de chemin ensemble. Alors, Yaakov dit, non, mais tu sais, moi... J'ai des troupeaux, si on marche trop vite, toi avec tes guerriers, tu marches trop vite, les petits-enfants, ça va pas marcher, je vais perdre mes troupeaux, etc. Alors Esav lui dit, tu veux que je te présente mes généraux, etc. Non, on n'a pas besoin, vraiment. Esav, il fait des pas, il veut avoir des relations normales avec lui, mais il veut pas faire de chemin avec lui, et il veut rien savoir. J'ai pas besoin que tu me présentes tes généraux. Ça m'intéresse pas. Mais il y a quelque chose ici que Jacob fait qui aura des conséquences extraordinaires, très très importantes. C'est le problème de Dina, évidemment. Quand il a rencontré Esav, Yaakov a mis Dina, sa fille, sa seule fille. Il a mis Dina dans une boîte. En d'autres termes, il l'a cachée pour que Esav ne puisse pas la voir. Il avait peur que Esav veuille l'épouser. Alors évidemment, on dira, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de pères qui ont envie de donner leur fille à un bonhomme comme Esav, c'est vrai. Mais d'un autre côté, Dina, c'est pas n'importe qui. Vous savez probablement que quand Léa a été enceinte, son dernier enfant, elle a fait le calcul, elle voyait probablement, elle voyait qu'elle aurait un garçon. Elle a fait le calcul, elle a dit, si moi j'ai encore un garçon maintenant, alors tout le monde savait, toutes ces femmes savaient qu'elles devaient mettre au monde 12 enfants, 12 fils, qui serait le début du peuple juif en fait. Elle a fait le compte que les servantes, elles en ont 2 chacun, ça fait 4. Sur 12, il ne reste plus que 8. Et si maintenant, elle en a encore un de plus, alors il n'en restera plus qu'un seul possible pour Rachel. Donc, elle a prié pour que ce garçon qu'elle attendait, disons, ce soit une fille. Donc, il y a une transformation. Et cet enfant-là, ce garçon-là, il est né chez Rachel. Ce garçon, c'est Yosef. Donc Yosef et Dina, si vous voulez, c'est un peu deux versions, une version masculine et féminine de la même chose. En fait. Or, Yaakov, quand Yosef est né, Yaakov a dit... Yosef est né, je peux aller affronter Esav. C'était pas une question de... Cet enfant, c'était un petit enfant, c'est pas lui qui allait faire la guerre contre Esav. Mais il savait que Yosef, c'est celui qui a les moyens de vaincre Esav. Quelle que soit la façon. Et donc si Yosef et Dina, ce sont deux versions, une masculine, une féminine, de la même chose. Alors Dina aussi, elle a les moyens de vaincre ça. Et donc si Esav avait épousé Dina, Dina aurait fait faire, aurait, semble-t-il, elle aurait fait faire tshuva à Esav. Et si Esav faisait tshuva, alors, on aurait retrouvé ce qui était l'idée de Yitzhak Avinu quand il a donné les brachot à Esav. Depuis le début, depuis Caïn et Hevel, quand il y a eu 2 enfants, ils se sont partagés le monde. Mais pas du tout pour travailler ensemble. Partager le monde, et puis ensuite chacun essayer de grignoter sur la part de l'autre. C'est pour ça que ça ne marche jamais. Yitzhak Avinu pensait que Yaakov et Esav, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Yaakov et Esav ne sont pas seulement des jumeaux. Quand la Torah nous dit que Yaakov, quand il est né, il tenait le talon d'Esav. Quelque part, ils forment une entité. Ces deux corps qui naissent ensemble, en fait, c'est un seul corps. C'est-à-dire qu'en réalité, Yaakov et Esav, c'est une seule. C'est un peu comme chacun d'entre nous, si vous voulez, avec un Yetzeratov et un Yetzerara. Seulement, c'est séparé. Et donc, Yitzhak Avinu pensait que Yaakov et Esav allaient se partager le monde, mais pas chacun de son côté. Ils vont travailler ensemble. Esav, c'est un homme de terrain, c'est lui qui gérera le matériel, et Yaakov sera Yoshev Oalim, Yaakov sera dans la tente. Donc ça, il va donner une dimension particulière à ils pourront faire grâce au travail sur le terrain de Esav. Mais ça, c'est parce que Yitzhak ne savait pas qui était Esav. Lui, Esav a toujours donné le change à son père. Extérieurement, il avait l'air d'un tzaddik. Alors ça ne pouvait pas marcher parce qu'Esav n'était pas d'accord. Il ne voulait pas de ça. Mais en fait, s'il avait fait tshuva, alors on aurait eu cette configuration extraordinaire. Si vous voulez, cette situation d'une direction un peu bicéphale, comme ça, c'est ce que Rabbi Akiva a essayé de faire avec Bar Kokhba. Bar Kokhba, c'était un chef de guerre. Mais ce n'était pas un Talmid Racham. Alors Rabbi Akiva a pensé qu'effectivement Bar Kokhba, il serait le Mashiach, il serait le roi, mais il prendrait conseil chez Rabbi Akiva. Donc ça, il y aurait la Torah et la royauté en même temps. Au début, ça marchait, et après, comme c'était à craindre, Bar Kokhba, il a attrapé la grosse tête. Et bon, il a voulu tout faire tout seul et ça nous a amené à Bétar. C'est une grande tragédie. Alors son travail à Yaakov, lui, il fait tout ce qu'il faut, sauf ça. Et puis à ce moment-là, il a le 12e enfant, Binyamin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important, c'est la préparation. Avant l'action. Il fallait se préparer à tout cela. Il y a encore un point important, c'est le problème des noms. Abraham Avinu s'appelait Abraham, il est devenu Abraham, et le nom Abraham a disparu. On ne garde que Avraham. Yitzhak Avinu, il n'a pas changé de nom. Il s'appelle Yitzhak et il le reste. Et Yaakov, lui, il acquiert un deuxième nom. Il s'appelle Israël, mais on n'élimine pas le nom Yaakov. Donc ils ont trois formes de relation avec les noms. Les noms, c'est bien sûr révélateur du travail qu'ils ont à faire. Il y a Yitzhak qui ne change pas de nom. Il a encore une autre caractéristique, c'est que il est le seul qui n'a qu'une seule femme. Avraham et Yaakov ont plusieurs femmes. Yitzhak n'en a qu'une seule, Rivka. Lui, il est donc cette Midat Adin. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il s'est séparé de son père, si on peut parler comme ça? Il s'agit d'être, de devenir un Hav. Comment est-ce qu'il va pouvoir être un Hav, c'est-à-dire différent de son père, sans couper avec son père? C'est-à-dire, il va faire un peu le même travail que son père, mais avec la Mida de Gvura, avec la Mida Tadin. Alors, au début, il a 37 ans quand la Akeda a lieu. Au début, il s'écrase complètement devant la trajectoire de son père. Il est prêt à se sacrifier complètement pour son père dans la mesure où son père obéit à Hachem. À ce moment-là, puisque son père obéit à Hachem, lui, il s'écrase. Mais par la suite, il va changer. Après, on va voir qu'il aura sa trajectoire de Midat Hadin complètement différente. On va y revenir. Le seul à avoir le mot « Av » dans son nom, c'est Avraham. Le seul à avoir le nom « Père » dans son nom. Et puis, il est aussi le seul à ne pas être que « Av » du clan Israël. Avraham Avinu va devenir « Av Hamon Goïm ». Devient le père d'une multitude de peuples. Il y a deux lectures de cette multitude de peuples. Ou bien on dit que cette multitude de peuples, ce sont les 12 tribus, qui sont des peuples, chacun est un peuple pour soi. Ou alors on dit c'est qu'il devient le père de peuples différents. Il est un transmetteur, Abraham est un transmetteur de valeurs. Il va devenir, comme Hachem dit, un grand peuple et il va être associé à Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem lui dévoile qu'on va détruire Sodome, il comprend que ce n'est pas une information qu'il va mettre dans son petit calepin et on va passer à autre chose. Il comprend très bien que si Hachem lui donne une information comme celle-là, c'est pour que lui agisse. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va prier. Il va prier pour, encore là, cette fois-ci, les super crapules de Sodome. Il prie pour eux. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas le minimum, mais il a prié pour eux. Donc, je vous ai dit, il invente un chemin nouveau en rupture avec Terach. Ce processus commence avec Lech Lecha. Lui, son mariage, il est un peu étrange. Le mariage d'Abraham Avinu avec Sarah. La Torah, elle nous dit que, vous vous souvenez probablement que Terach avait 3 fils. Il y avait Abraham et Nahor, et au milieu, il y avait un autre qui s'appelait Aram. Et celui du milieu, là, c'est quelqu'un qui ne savait pas très bien où il était. Et quand Nimrod, qui avait jeté Abraham dans la fournaise, lui a demandé « Et toi donc, avec qui tu es ?» Aaron a pensé que... Il a dit « Je suis avec Abraham ». Il pensait qu'il lui arriverait la même chose qu'à Abraham et qu'il serait sauvé. C'est-à-dire, on va le jeter dans la fournaise, mais il serait sauvé. Mais il ne l'a pas été. Il est mort. Alors, la Torah nous dit que Abraham et Nahor ont épousé des filles de Haran pour assurer une descendance à Haran. Que je ne comprends pas très bien, mais je crois que je l'ai déjà dit, étant donné qu'Haran avait un fils qui s'appelle Lot, on ne voit pas très bien pourquoi il faut épouser les filles pour assurer une descendance. Il avait Lot. Lot était le fils de Haran. Lot, c'est le frère de Sarah. Il est le beau-frère d'Abraham, mais il est aussi le frère de Sarah. Il est aussi son neveu, le neveu d'Abraham. Donc, Sarah est épousée, en fait, pour assurer une descendance à son frère, au frère d'Abraham, Haran. comme Nahor. Donc, c'est une façon de... C'est comme si elle n'était pas épousée pour elle-même, elle était épousée pour assurer une descendance. Mais ensuite, Avraham va, vu les circonstances avec Paro et Abimelech, Avraham va lui devoir deux fois la vie. Chaitan Afshi Biglalech. Deux fois, il lui doit la vie parce qu'elle accepte de s'exposer, elle accepte en fait d'être raptée pour Paro, puis ensuite pour Abimelech. Ce qui va permettre à Avraham de dire qu'il est son frère, qu'il va être couvert de cadeaux, etc. C'est... Le Ramban est très sévère sur Avraham Avinu. Il y a d'autres mefarshim qui sont plus sympas pour Avraham, mais le Ramban, il lui laisse pas beaucoup de... Très difficile. C'est difficile, c'est vrai. Alors cette Sarah qu'il a épousée, on a l'impression qu'ils ne se connaissent pratiquement pas. Elle est plus grande que lui en prophétie. Elle a des prophéties que lui n'a pas. Il faut que vous sachiez, quand quelqu'un est prophète, alors, de deux choses l'une, ou il reçoit un message avec l'obligation de le transmettre, et s'il ne le fait pas, il est chayav mita, il est passible de mort, ou il reçoit un message avec l'interdit de le remettre, de le transmettre, et s'il le fait, il est aussi passible de mort. Il n'a pas le choix. Un prophète n'a pas le choix de faire, ou bien il doit parler, ou il n'a pas le droit de parler. Et donc Sarah, qui sait certaines choses, ne peut pas les dire à Abraham parce qu'elle n'a pas reçu la permission, ou l'ordre même d'ailleurs, de le lui communiquer. La nevoa, la prophétie, c'est un rapport avec le grand autre, ça veut dire avec l'autre avec un grand as, avec Hachem. Et donc, Avraham va être obligé de se soumettre à Sarah, qui est son autre, avec une minuscule si vous voulez, qui elle-même se soumet à l'autre, à Hachem. Ça c'est le premier moment en fait. Et ensuite, à la Akeda, il va se soumettre à Hachem directement avec l'aide de son fils Yitzhak. Parce que vous comprenez bien que Avraham n'aurait pas pu faire la Akeda d'Yitzhak, qui avait 37 ans, si Yitzhak n'avait pas été d'accord. Il n'avait pas les moyens de le contraindre. Et après la Akeda, il vit une vie de Av Hamon Goïm, c'est l'autre partie de son nom. Semble-t-il sans contact avec le nouvel Av, qui est désormais Israël. Alors, cette histoire d'être Av Hamon Goïm s'est présentée, vous le savez, il va épouser Ketura. C'est Ketura, il y a une discussion pour savoir si Ketura est ou non Agar. Alors le Kli Yakar, il pense que Ketura c'est Agar, mais c'est Agar qui a fait Tshuva, et la raison pour laquelle Abraham l'appelle Ketura, pour proclamer qu'elle a fait Tshuva. La Ktoret, c'est le korban le plus élevé, si vous voulez, complètement sans support vraiment matériel. Et dire qu'elle s'appelle Ketura, c'est dire qu'elle est parfaite. Donc, c'est la Tshuva. D'accord? Ça veut dire, Avraham Avinu prend une femme qui est une femme qui a, conformément à ce que Sarah a vu, immédiatement, Agar était retournée à son idolâtrie, etc. Elle avait toutes les fautes qu'on peut faire, mais elle a fait tshuva. Et donc, bien qu'elle ait fait cette faute très importante, la tshuva a marché et Avraham proclame que Agar c'est Ketura parce qu'elle a fait tshuva parfaitement. Et ensuite, il y a un sforno aussi étrange qui dit qu'en réalité, les enfants dont on parle, l'enfant d'Agar, là, ou de Ktura, ces enfants-là, ils ne sont pas les enfants d'Abraham. Le sforno dit que Agar avait des fils et elle les a élevés dans la maison d'Abraham. C'est en cela qu'on les appelle les enfants d'Abraham. C'est le sforno. Donc c'est une autre façon d'être père, n'est-ce pas ? Être père parce que dans sa maison, c'est-à-dire selon ses principes, les enfants d'un autre, je ne sais pas qui est le père, sont élevés dans cette maison-là, selon ces principes-là. Yitzhak Avinu, lui, comme je vous ai dit, il ne va pas changer de nom, il a une seule femme, et il est l'amida de Gvura, après l'amida de Chesed. Le Chesed, c'est la générosité, la Gvura, c'est l'amida Adin. Après la Akeda, Yitzhak va passer un peu de temps chez Shem et Ever. Shem et Ever, c'est une yeshiva où on apprend Torah Tagalut. On apprend comment se comporter en Galut, comment se comporter au contact avec les non-juifs. Yitzhak va accepter. Bon, pour son mariage, il accepte un chidour. C'est son père avec Eliezer. Donc finalement, le critère, c'est Eliezer qui l'a défini. Il accepte ce chidour. Il accepte. Il ne pouvait pas y aller lui-même parce qu'il avait un statut de Ola. Une Ola ne peut pas sortir d'Eretz Israël. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui est allé chercher une femme. Il lui met une épreuve néanmoins. Avant de l'épouser vraiment, il la met dans la tente de sa mère. Et il regarde ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que cette jeune femme, dans la tente de Sarah, elle a une conduite qui est telle que tout ce qui se manifestait d'extraordinaire dans la tente de Sarah se manifeste dans sa tente à elle. Enfin, dans cette même tente, mais quand c'est elle qui l'habite. Et à ce moment-là, il décide de l'épouser. À ce moment-là, il l'a aimée, et il décide de l'épouser. Elle va même dépasser, Yitzhak aussi. Elle commence, elle, où Sarah a terminé. Mais par exemple, elle est stérile, et c'est la seule des imaot, des matriarches, qui n'envisage pas le recours à une servante. Elle n'envisage pas de donner une servante pour avoir des enfants, etc. Mais lui, Yitzhak l'aime, il prie pour elle. C'est intéressant, il prie pas pour lui. Pourtant, il a une mitzvah. C'est lui qui a la mitzvah d'avoir des enfants. Les femmes n'ont pas de mitzvah d'avoir des enfants. Pourquoi il ne prie pas pour lui ? Il y a toujours cette fameuse histoire de la Midat Hadin. Il n'y a pas de prière pour un tzaddik pnimi selon la Midat Hadin. On doit y arriver par soi-même, en fait. Donc il ne prie pas. Il pense que, voilà, je ferai ce qu'il faudra faire. La prière comme telle, demander quelque chose de plus, semble-t-il, pour la Midat Hadin, ce n'est pas possible. Pour un tzaddik pnimi, en fait. Elle, Rivka, elle sait que c'est elle qui doit produire, a priori, les 12 Shvatim, les 12 enfants. C'est-à-dire que elle pensait que, voilà, il y aurait 2 avot, Avraham, Yitzhak. Et elle aurait les 12 Shvatim. Mais bon, j'ai déjà raconté ça, mais c'est un midrash que j'aime bien. C'est pas la seule façon de voir. C'est un midrash. Quand on regarde la paracha, Toldot, on voit que Rivka est enceinte et il se passe des choses que personne ne peut lui expliquer. Les autres femmes lui disent non, c'est pas homogène à ce que nous on a connu. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça se traduit de la manière suivante. Quand Rivka passe devant un endroit, la yeshiva pour le Shemever, alors il y a l'enfant qu'elle porte, il a un mouvement pour sortir, il est attiré par cela, et quand elle passe devant un temple idolâtre, il est aussi attiré par ça. Alors Rivka, elle pense, elle dit, moi je ne suis pas d'accord. Moi je n'ai pas de mitzvah d'avoir un enfant. Par conséquent, je ne veux pas d'un enfant qui soit attiré à 50-50 par l'idolâtrie d'un côté et 50% par la Torah d'un autre côté. D'autant que, elle sait, donc je vais avoir 12 enfants qui seront tous du même type. Je ne veux pas de ça. Je ne suis pas d'accord. Elle dit, Yitzhak, lui, il n'a pas le choix, il a une mitzvah. Mais moi, je ne veux pas de ça. Alors, elle va transformer, si vous voulez, cette situation. Et elle décide, elle veut mettre toute la partie positive des 12 tribus, les 50% de chacun, d'un côté, toute la partie négative des 12 d'un autre côté. Ça va donner Yaakov et Esav. Alors c'est comme si elle avait deux enfants, mais comme je vous ai dit, ces deux enfants, c'est une seule et même entité, quoi. Ils se tiennent, c'est deux corps, mais en fait, c'est un divisé en les deux parties de l'un. Et du coup, elle décide que c'est pas elle qui aurait les 12 tribus, puisque elle est là. Elle a, au lieu de laisser à chaque tribu le soin de choisir les 50% du bon côté, elle dit, moi je choisis pour eux, je fais le travail en amont, j'ai choisi. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'elle sait qui est Esav. Alors, il y a un peu de bon quand même chez Esav aussi, parce qu'on ne peut pas faire entièrement que du bon et que du mauvais. Donc il y a un peu de bon chez Esav et un peu de mauvais chez Yaakov aussi. D'accord. Et elle remet en quelque sorte à la génération suivante, c'est-à-dire à ses nièces, la charge de produire ces fameux 12, cette multiplication par 12, quoi. Donc Abraham, Yitzhak, ça fait 1 donne 1, puis après de nouveau 1 donne 1, Yaakov, et là, multiplication par 12, et Esav aussi, vous regardez dans la Torah, il a aussi 12 tribus. Donc c'est Rivka, c'est elle qui fabrique, si vous voulez, un troisième Av. Le troisième de Avot, il n'avait pas de raison d'être si elle avait accepté son sort, si on peut parler comme ça. Comme elle a refusé, et qu'elle a décider autrement, c'est la puissance, bon, probablement la femme la plus puissante de toute l'histoire. Elle a décidé que ça passerait autrement, quoi. Elle a inventé un troisième Av, et elle a donné à ses nièces, ce sont ses nièces, Rachel et Léa, sont les nièces de Rivka, comme vous savez, ce sont elles qui vont produire les douze tribus. Yitzhak il est manipulé par son autre, par sa femme, qui, elle, est dépositaire d'une voix qu'il n'a pas. Y compris pour envoyer Yaakov chez Laban. D'accord. Rivka, elle pense qu'elle a entendu le roi HaKodesh que Esav a le projet de tuer Yaakov. Elle décide d'envoyer Yaakov chez Laban, chez son frère. Mais elle veut l'aval d'Yitzhak. Alors elle dit à Yitzhak, si Yaakov épouse aussi une Cananéenne comme Esav, alors j'ai plus envie de vivre, etc. Alors il lui dit, ok, alors il appelle, Yitzhak appelle Yaakov et lui dit, tu vas chez Laban. Donc, à la limite, Yitzhak est manipulé par Rivka. Et ensuite, comme vous savez, il était pratiquement aveugle. Et dans la Torah, il y a une règle que Hachem, on ne dit jamais Eloké de quelqu'un de vivant. Or, on dit Eloké Yaakov. Et on dit, pourquoi Eloké Yaakov? Parce qu'il était pratiquement mort. Yitzhak, écoutez, je me suis trompé. Eloké Yitzhak. Il était pratiquement mort. Et il est au contact du nouvel Av. Le Av, c'est Yaakov. Il est au contact de Yaakov. Yitzhak saura la vérité sur Yosef. Il sait que Yosef est vivant. Il voit son fils, Yaakov, qui se désole, qui perd le roi HaKodesh. Il ne dit rien, parce qu'il n'a pas le droit de lui dire. C'est une prophétie. Il n'a pas le droit d'en parler. Yaakov, c'est celui auquel on va ajouter un nom. Yaakov, Israël. Il aura plusieurs femmes, il aura même dans ses femmes des servantes, avec un statut un peu ennuyeux, parce que si elles ont un statut de servante, alors leurs enfants sont des esclaves. Donc si on considérait qu'elles avaient un statut de servante, même quand elles ont des enfants avec Yaakov, les enfants seraient des esclaves, donc il y aurait 4 des 12 tribus dans le clan d'Israël qui auraient un statut d'esclave. On verra que c'est pas tout à fait comme ça. Il est l'autre moitié d'Esav, comme je vous ai expliqué. Conçu ensemble, né ensemble, Yado, Chesed, Ba'akev, Esav. Deux moitiés. Son père, qui, comme on le sait, il aime son frère, mais pour les raisons qu'on a vues, il donne les brachot au frère de Yaakov. Et, comme le dit le Gaon de Vilna, si les brachot étaient arrivés chez Esav, le clan d'Israël n'aurait pas existé. Donc, ça aurait été un désastre. Lui, évidemment, il ne le sait pas. Mais Rivka, sa mère, ici encore le rôle de la mère, Rivka le sait. Elle sait tout de lui. Quand il lui dit à sa mère, mais mon père, s'il va me toucher, il va voir que je suis Yaakov et que je suis pas Esav et je vais récolter en tout et pour tout des clalotes, des malédictions. Alors elle lui a dit, Alai qui l'a trabéni. Alors elle lui a dit, littéralement ça veut dire, ta malédiction je la prends sur moi, mon fils. Bon, mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas prendre une malédiction sur soi, ça part. Alors en vérité, le Gaon de Vilna explique qu'elle lui a dit, c'est une information qu'elle lui a donnée. Elle lui a dit qu'il la trace, c'est-à-dire tes problèmes, c'est Elai. Alai. Alai plutôt, Alai. Aïn Lamed Yud. Aïn de Esav, Lamed de Lavan, Yud de Yosef. Tu n'as pas de problème avec ton père. Tu n'auras pas de problème avec ton père. Donc elle sait tout de lui. Il s'écrase, il obéit, ça se passe bien, sauf avec Esav, évidemment, avec le Aïn de Alai. Et donc il doit fuir chez Laban. En chemin, il passe 14 ans chez Shemever parce que, pour le coup, lui, il va avoir un vrai rapport avec l'Égoïm, Esav. Pour rêver, il doit dormir. Rêver, c'est avoir une voix, une prophétie, parce que à part Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, absolument tous, n'ont de prophétie que lorsqu'ils dorment ou lorsqu'ils tombent en syncope. Personne n'a de prophétie en étant debout, éveillé, sauf Moshe Rabbeinu. Et lui, quand le rêve, le fameux rêve de l'échelle, il se désole de ne pas s'être préparé à la nevoie. Alors il y a les puits, l'histoire des puits qui nous accompagne. Les puits que Abraham et Yitzhak ont creusés accompagnent Yaakov aussi. Il a 70 ans, 77 ans quand il est à Berseba. Il apprend l'histoire juive par l'échelle. On y voit là les royaumes qui vont monter, descendre. Et il fait une erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait suffisamment confiance à Hachem pour monter à l'échelle. Hachem lui a dit monte, il n'a pas osé monter. Néanmoins, il reçoit une promesse de protection d'Hachem. Il va la relire un petit peu différemment. Il doit travailler pour Lavan, il va travailler jour et nuit. Il se soumet complètement à lui. Il se soumettre à un autre de nouveau, et qui lui est vraiment négatif. Il n'a plus rien quand il arrive chez Lavan. Vous vous souvenez, Esav avait donné l'ordre à son fils Eliphaz de rattraper Yaakov et de le tuer. Il a compris qu'il était parti, il est enfui. Il le tue, comme ça les brachot n'auront pas d'effet. Et quand le problème, c'est que Eliphaz n'était pas que le fils aîné de Esav, il est aussi l'élève de Yaakov. Parce que Esav, quand il cherche un précepteur pour son fils, il l'envoie chez tonton Yaakov. Pour que vous compreniez bien de qui est Esav. Donc, Eliphaz, il arrive chez Yaakov. Yaakov lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu te tuer. Ok. Alors, Yaakov lui dit, bon, on a appris qu'il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. C'est-à-dire d'en faire quelqu'un de mort. Et une des façons, c'est de le rendre économiquement complètement mort. Donc, si tu me dépouilles complètement, tu pourras dire que tu m'as tué. Alors il a dépouillé complètement Yaakov. C'est pourquoi Yaakov, quand il arrive chez Lavan, il a rien. Rien du tout. On voit d'ailleurs nulle part que Esav ait fait des reproches à Eliphaz de ne pas avoir tué avec un coup de couteau Yaakov. Il a très bien compris que oh, ok, c'est bon. Il va rencontrer, finalement, il avait rencontré Rachel. Il pleure parce qu'il voit que non seulement ils sont séparés par la mort, puisqu'elle va mourir tôt, mais en plus, même dans la tombe, ils sont séparés, puisque celle qui est enterrée avec Yaakov, c'est Léa, c'est pas Rachel. Mais Hachem, là aussi, sera avec lui. Il fait l'expérience de la propriété acquise par le travail et par la bracha. Chez Yitzhak, c'était un héritage. Yaakov va montrer sa force et son autorité au puits. Il va se faire rouler par Laban, bien qu'il ait pensé que c'est... Quand Rachel a dit à Yaakov, tu sais, mon père, c'est un roublard, il faut que tu t'attendes à tout, il a dit, mais je suis son frère. J'ai pas peur. Moi aussi, je sais qu'on me trompe. Mais finalement, il se fait rouler par Laban, mais avec la complicité de Rachel et de Léa. Ça n'aurait pas pu marcher si Rachel et Léa n'avaient pas marché aussi. Et quand il fait des reproches le lendemain matin à Léa, elle le remet en place. Elle lui dit, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas roulé ton père? Il va déroger à la règle de vivre conformément à la Torah non encore donnée en épousant deux sœurs en même temps. Elles savent qu'elles doivent construire le clan Israël. Et quand, quand Yaakov pense qu'il a perdu Yosef, il pense qu'il a tout raté parce qu'il n'a pas les 12 tribus. Et en réalité, Yosef était déjà candidat pour prendre la place de Yaakov. Yosef pensait que les frères étaient des mauvais sujets. Donc il pensait que Yaakov avait raté. Et lui, il savait que lui, il était porteur de 12 fils. Donc Yosef a pensé que c'est lui qui serait le troisième patriarche. Il pensait que Yaakov, c'est un coup pour rien. Enfin, ça l'aura produit lui, mais c'est tout. Ce sera encore un et encore. Alors bon, comme vous savez, ça ne s'est pas fait. Mais Yosef va quand même devenir un peu un patriarche, puisqu'il devient le père de deux tribus, Ephraïm et Ménaché. Et ces deux tribus-là, je vous ai déjà dit, c'est les deux seuls qui ont dans leur ascendance Rachel et Léa. Ils ont Rachel par Yosef et Léa parce que la femme, la femme de Yosef, c'est la fille de Dina. Dina est née une enfant de Léa. Donc il y a Léa et Rachel dans l'ascendance. C'est les seuls. Les autres, ils ont l'un ou l'autre, ou alors les servantes. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que encore aujourd'hui, quand on bénit les enfants, en faisant référence à Ephraïm et Ménaché. On ne bénit pas les enfants en faisant référence à Issachar et Zvouloun. Pourtant, c'est des personnages tout à fait dignes de cela. Mais la bracha, elle est toujours par référence à ces deux-là. Peut-être pour ça, d'ailleurs. Dans son couple, il est passif, Yaakov. Il n'épouse pas celle qu'il veut. Ce sont les femmes qui nomment les enfants. Elles s'arrangent entre elles, dans l'histoire des Doudaïm, sur son dos. Reuven se mêle de son intimité. Pour retourner chez son père, il demande l'accord de ses femmes. Ensuite, il y a Shimon et Lévi qui se conduisent comme des assassins, d'après ce que dit Yaakov. Quand il a lutté contre l'ange d'Essav, cet ange, Hazal disent que peut-être il s'est présenté comme un idolâtre, ou bien il s'est présenté comme un Talmid Chacham. Les deux choses. La tâche de Yaakov, c'était bien d'être Yoshev Alim, d'être celui qui est dans les tentes. Mais il y avait une deuxième chose, il devait résoudre le problème de la relation avec Esav et Lavan. Il devait gérer cette confrontation avec eux selon le Beit HaMidrash. C'est-à-dire, pas seulement étudier, mais prendre l'étude et la sortir du Beit HaMidrash et l'appliquer dans les relations avec Esav et Lavan. Et quand il en a eu fini avec Esav, il a souhaité avoir la situation de Yitzhak Avinu. Il a souhaité avoir la shalva, avoir la paix. Il a eu l'affaire Yosef. Comme sa mère le lui avait dit d'ailleurs. La guerre du Yetzer Hara, c'est une guerre dans laquelle toutes les ruses sont permises. Le Yetzer Hara, il a même le droit de se déguiser en Yetzer Hatov. Donc comme je vous ai dit, il a privé Esav de Dina, qui aurait pu le faire faire tshuva, donc le monde aurait été complètement changé. Imaginez. Ensuite, le fils qu'il préfère, Yosef, il l'envoie voir ses frères, il l'envoie se faire tuer. Il sait très bien que les frères le haïssent. D'ailleurs, quand il arrive, les frères, ils ont lâché les chiens sur lui. Ils n'ont rien fait, mais... Bon, là, tout à coup, il est à son corps défendant. Il est en train de faire ce qu'il faut pour que le Brit Ben Abtarim, pour que l'alliance entre les morceaux se réalise. Cette alliance dans laquelle on annonçait que le clan d'Israël serait dans un pays étranger, qu'ils seraient esclaves, qu'ils allaient souffrir. Et finalement, ce n'était pas nécessairement l'Égypte, mais ça devient l'Égypte à cause des frères, parce qu'ils l'ont vendu en Égypte. C'est l'endroit le plus pourri du monde. Jusqu'à son enterrement où il est contesté. On veut l'enterrer, et ça lui dit, mais non, c'est moi. Il y a deux places, c'est pour moi et ma femme. Par laquelle il aurait choisi, mais bon. Il aurait peut-être réussi à faire quelque chose, à choisir. Et comme vous savez, alors on lui dit, mais tu as vendu le droit d'aînesse, donc c'est plus toi. Alors il dit, vous avez un contrat? Oui, on a un contrat, alors montrez-le. Alors, il dit, mais il est en Égypte. Il avait laissé les papiers en Égypte. Alors on envoie Naphtali. Enfin, on va envoyer Naphtali. Naphtali, c'est comparé à la gazelle. C'est l'emblème des postes israéliennes pendant très longtemps. Et on l'envoie parce qu'il va aller vite et revenir vite, mais les choses vont s'arranger autrement. Dan, le fils de Yaakov, il avait un fils qui était sourd. Et Hushim, il s'appelait. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour enterrer le grand-père? On lui a dit, lui, là, il empêche. Il empêche? Il a sorti son épée, il lui a coupé la tête, terminé. Voilà, il n'empêche plus rien. La tête d'Essa va rouler dans Maharat HaMarpela. Donc, il s'est enterré tout seul dans Maharat HaMarpela, dans la caverne en question. Donc, si vous voulez, il y a, dans Maharat HaMarpela, il y a Adam Arishon et Ava, il y a Avram et Sarah, il y a Yitzhak et Rivka, il y a Yaakov et Léa, et la tête d'Esav. Ça montre quand même que c'était pas n'importe qui Esav. Je crois que ce qui caractérise ces Avot, c'est leur rapport avec les femmes. Il y a des failles que les femmes vont réparer. C'est ce que Chava n'a pas fait. Il y avait des failles chez Adam, et elle n'a pas réparé. Donc, Yaakov va prendre conseil de ses femmes. Il va prendre ses fils, comme je vous ai dit, pour ses frères. Il va faire craquer la famille, si on peut parler comme ça. Il invente un nouveau rapport dans la famille. Mais le rapport particulier qu'il a avec Yosef va déranger. Et ensuite, Yosef va faire jouer à Menaché tous les rôles. Bon, la force de Yosef, c'est sa force par rapport à Esav, c'est-à-dire c'est lui qui est capable de gérer les affaires avec les non-juifs, en fait. Et c'est parce que Yosef est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a ces qualités-là, que quand on a fait le veau d'or, c'est l'emblème de Yosef qui a été choisi. C'est sorti, c'est le veau, le taureau, c'est l'emblème de Yosef. Et c'est à ce machin-là qu'on a dit, tu nous as fait sortir d'Égypte. Parce que Yosef, c'est celui qui nous a fait descendre en Égypte. Et ici, on voit quelque chose de très important, c'est que c'est plus une causalité, c'est une finalité. Ça veut dire, on devait sortir d'Égypte, c'est ça qui est important. Mais pour en sortir, il fallait y aller. Et celui qui nous a fait descendre, en fait, il est celui qui a commencé la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que c'était vrai quand on disait cet emblème, que cet emblème, c'est l'emblème de celui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est vrai. Ça, c'était Yosef. C'est celui qui est entre les Avot et les Shvatim. Il y a un problème parce qu'avec le choix de Yaakov de choisir deux de ses petits-fils parmi les Shvatim, on en a 13, on n'en a pas 12. Et donc la Torah, elle est toujours obligée de naviguer quand on fait des décomptes des 12. Alors on compte pas les Levim en même temps parce que comme ça on n'a que les 12. C'est très ambigu. Mais ça c'est la faute. Et alors, ou bien alors on compte Yosef, on ne parle pas de Ephraim et Menaché, alors on peut compter Lévi dedans. Donc il y a un problème. Il a introduit quelque chose de... Yaakov a introduit quelque chose de... d'anormal, si on peut parler comme ça. Il fallait 12 enfants, 12 garçons, et il en choisit deux, ce qui fait qu'ils sont... pour en remplacer un, ce qui fait qu'ils sont 13, finalement. Voilà, je crois que si on réfléchit bien, c'est effectivement le rôle des mères et le rôle des femmes. Alors, curieusement, elles sont toujours inspirées, elles ont toujours Ruach HaKodesh ou plus encore, la Nevoa. Et, pardon ? Bon, il y a des gens qui se rassurent en disant que de nos jours, elles n'ont pas ça. Maintenant, comme elles n'ont pas le droit de nous le dire, on ne sait pas. Voilà, on va arrêter là.